Très belle chanson. La Clinique des troubles neurologiques fonctionnels, TNF, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qu'on appelle aussi le CHUM, se spécialise dans la réadaptation des personnes aux prises avec des troubles physiques incapacitants en utilisant une approche novatrice, sujet formidablement intéressant. Et j'ai une belle table, une belle tablée des gens intéressants, j'en suis convaincue, qui en savent plus que la plupart des ours, des gens, sur ces troubles. Donc, je parle de Arline Aude Bérubé, qui est neurologue et responsable du programme des troubles neurologiques fonctionnels. Bonjour, docteur Bérubé.
Bonjour.
Aussi Pierre-Luc Lévesque, qui est physiothérapeute. Bonjour, Pierre-Luc.
Bonjour, bon matin.
Est-ce qu'on s'appelle par nos prénoms?
Oui.
OK. Bon, et puis Delphine Bélanger, qui est ergothérapeute et psychothérapeute?
Oui, les deux.
Enchantée.
Double formation.
Enchantée, Delphine.
Enchantée.
Alors, on commence avec vous, Arline Aude Bérubé. Expliquez-nous en quelques phrases ce que sont les troubles neurologiques fonctionnels.
Donc, un trouble neurologique fonctionnel, c'est un trouble qui peut survenir de façon absolument involontaire chez tout individu à peu près à partir de l'âge de raison, donc de 7 ans jusqu'à la fin de la vie, de façon multifactorielle, donc il n'y a pas une cause unique. Et ça va donner des symptômes neurologiques qui, lorsqu'un médecin qui maîtrise l'examen neurologique fait l'examen, n'est pas compatible avec une lésion de la structure des neurones. Donc, les signes nous montrent qu'il n'y a pas de dommage aux nerfs, que le courant est bien là pour passer, les neurones sont en place pour bien fonctionner, mais ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle trouble neurologique fonctionnel. C'est un problème de fonction et non de structure, si on veut.
Et puis, Pierre-Luc Lévesque, vous êtes fondateur de la clinique TNF?
Certains vont dire que oui, effectivement.
La clinique qui existe depuis déjà quelques années, là.
Oui, en fait, depuis... nos premiers patients ont été en mai 2018. Donc, parce que c'est des patients que je retrouvais à travailler dans ma clientèle. À l'hôpital, au CHUM et tout ça. Puis à force de m'intéresser, parce que c'est un diagnostic quand même assez méconnu, mm-hmm. donc à force de me renseigner sur le sujet, j'ai commencé à avoir des discussions avec notre neuropsychiatre au CHUM. Puis à force de faire des développements comme ça, bien, puis en transférant vers le nouveau CHUM, on allait vers un centre d'expertise, un centre de surspécialisation. On pensait que c'était vraiment le meilleur moment de mettre les efforts en commun pour essayer de créer vraiment une clinique pour ces patients-là. Qui ont des parcours de soins assez compliqués. Et souvent, on entend peu parler, donc ils sont un peu projetés à gauche et à droite. Donc, on voulait vraiment mettre la main à la pâte pour leur offrir quelque chose enfin, parce qu'au Québec, là, c'est pas quelque chose qui est disponible, qui ne l'était pas maintenant qu'il l'est.
Depuis mai 2018.
Exact.
Et maintenant, comment, Delphine Bélanger, comment vous vous y prenez pour annoncer à vos patients un diagnostic d'un trouble neurologique fonctionnel? Et puis, comment ils vont le recevoir?
Oh, peut-être que là, c'est une super bonne question, mais je vais passer le micro à la neurologue qui est ici présente.
Mais en tant que psychothérapeute?
C'est vraiment, au niveau du diagnostic, c'est vraiment l'équipe médicale qui fait le diagnostic. Donc, en premier lieu, Dr Bérubé, Dr Chamalian, qui sont neurologues, Dr Bérubé, Dr Chamalian, qui est neuropsychiatre, ce sont vraiment elles qui font les diagnostics en premier lieu. Pierre-Luc et moi, on est dans l'équipe de réadaptation. Il y a aussi Marie-Andrée Lévesque, qui est la deuxième physiothérapeute qui travaille avec nous. Donc, c'est une petite équipe de réadaptation, mais nous, on est vraiment dans le traitement. Donc, votre question est super bonne. Je vais laisser Arline y répondre.
On vous écoute, Arline.
Oui, bien, en fait, je vais encore nuancer en plus de ce que Delphine vient de dire, parce que la clinique au CHUM, de la façon qu'on est structuré, les gens qui nous sont référés ont déjà reçu le diagnostic par leur neurologue référent. Donc, nous, on arrive vraiment à l'étape de déterminer avec la personne si elle a bien compris le diagnostic. Donc, Delphine a un peu raison qu'on réexplique le diagnostic. Puis, comme c'est un diagnostic qui est un peu méconnu puis qui est souvent, disons, teinté de nos connaissances plus générales dans la culture plus populaire, je dirais, de toute l'influence de la psychanalyse, du concept de somatisation, bien, il faut reprendre certaines explications parce que le trouble neurologique fonctionnel tel qu'on le conçoit au CHUM, ce n'est pas un trouble de somatisation, ce n'est pas un trouble de conversion.
C'est pas une maladie imaginaire.
Du tout. Non, les symptômes sont tout à fait réels, sont très souffrants, autant que n'importe quelle maladie. Donc, on va l'expliquer, c'est notre particularité, avec un modèle qu'on appelle prédictif, le modèle cognitif prédictif bayésien. Donc, c'est des termes un peu compliqués qu'il faut vulgariser, effectivement, lors de la première rencontre. Donc, on va l'expliquer comme un trouble où le cerveau, dans le fond, on a longtemps pensé qu'il était en réaction à ce qu'il percevait de l'environnement via ses sens, ses cinq sens, sa proprioception, etc., et on s'est aperçu avec les années d'accumulation de recherches en sciences cognitives qu'il n'est pas en réaction à ce qu'il perçoit du monde, il est en prédiction, en prévision, dès qu'il a une connaissance, là, disons, même assez limitée du monde. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça peut apparaître dès l'âge de 7-8 ans mm-hmm. chez les enfants. Donc, le cerveau, dans le fond, prend toujours de l'avance sur la perception. Donc, il génère la perception avant qu'elle arrive vraiment des sens. Ça va beaucoup plus vite. Et à l'inverse, ça va filtrer. Le cerveau filtre la majorité des informations qui nous parviennent du corps parce que ça serait beaucoup trop d'informations à gérer à la seconde et ça nous empêcherait de vaquer à nos occupations ou ce sur quoi on veut se concentrer. Donc, le cerveau est en prédiction de la sensation à venir. Donc, le trouble neurologique fonctionne. Il l'appréhende, mais c'est son travail. Donc, de temps en temps, bien, ça donne lieu à la possibilité de développer un trouble neurologique fonctionnel où là, la perception va être très incommodante, très invalidante et va donner lieu à des problèmes de mouvement, des sensations souffrantes, incommodantes. Mais en même temps, cette capacité-là du cerveau de générer de la perception à l'avance est très, très utile pour se maintenir en sécurité et répondre à nos besoins comme individu. Donc, on a des symptômes fonctionnels sans le savoir en temps réel de façon tout à fait courante, que la réalité va venir nous corriger. Donc, quand, en fonction du contexte, par exemple, on a l'impression ou on apprend, on a l'information qu'on a été exposé, par exemple, à des puces de lit ou à des poux, on va ressentir une démangeaison presque instantanément. Ce n'est pas un phénomène de somatisation. Ça n'a rien à voir avec de l'anxiété ou du stress. C'est le cerveau qui calcule que c'est la sensation qu'il doit générer pour se prémunir de la possibilité qu'on ait effectivement une infestation.
Genre de mécanisme de protection.
Tout à fait, c'est ouais. tout à fait sain. Et quand on va se gratter, ben on va vérifier l'intégrité de notre peau, notre cuir chevelu, ben la réalité va venir corriger ce qu'on appelle un calcul prédictif de la perception. Dans le trouble neurologique fonctionnel, ces mécanismes-là, c'est ceux-là qu'il faut corriger avec de la réadaptation. Et c'est tout ça qu'on explique aux patients dans la première visite.
Je reviens à vous, Delphine. Mm-hmm. Alors, vous, votre rôle d'ergothérapeute et de psychothérapeute en lien avec les troubles dont on parle, quel est-il exactement?
Bien, l'ergothérapeute travaille là, de façon générale à accompagner les gens à retrouver l'autonomie dans leurs activités de la vie quotidienne. Donc, que ce soit en lien avec un problème au niveau de la santé physique ou de la santé mentale.
Parce que ça peut être les deux.
Bien, dans de façon générale, l'ergothérapeute, quand travaille avec des patients, avec des gens, c'est soit pour une incapacité qui est en lien avec la santé physique ou la santé mentale. Donc, c'est une formation double, comme professionnel de la santé. Et puis, notre médium d'activité, de thérapeutique, c'est l'activité. Alors, comment on va intervenir avec des gens qui ont des incapacités, qui ont une perte d'autonomie, c'est en leur faisant retrouver leur autonomie dans l'activité qui est significative pour eux. Donc, le TNF, si on revient maintenant plus spécifiquement mm-hmm. au TNF, ce sont des gens comme Dr. Birubé le mentionnait, qui ont des symptômes neurologiques, qui ont un impact sur leur capacité à faire les choses au quotidien.
Pouvez-vous nous donner un exemple de symptômes neurologiques?
Oui. Par exemple, quelqu'un qui a un tremblement, qu'on appelle un tremblement qui n'est pas dû à une maladie neurologique connue, établie, par exemple, comme le Parkinson, mais qui est plus un tremblement qui est d'origine fonctionnelle. Donc, il a été diagnostiqué par un neurologue ou un médecin là, qui a vu le patient et qui n'est pas un diagnostic neurologique où il y a un problème au niveau de la structure, au niveau, comme Dr. Birubé le disait.
Donc, c'est alors, vraiment, ce patient-là arrive, il a des tremblements.
Il y a des tremblements, mais ce sont des tremblements qui vont avoir un impact sur la capacité, par exemple, à manger, à s'habiller parce que la main va trembler. La main, une main, deux mains, le bras, des fois c'est le cou, des fois c'est le tronc, peu importe. Et puis là, dans le trouble neurologique fonctionnel, ce qu'on vise, c'est la récupération complète. On vise à faire en sorte que les tremblements disparaissent complètement.
Et vous pouvez y arriver?
Oui, on peut y arriver avec des stratégies très précises. En fait, une des stratégies qui est la plus intéressante et qui souvent est la plus percutante, c'est d'appliquer la distraction.
Ah oui.
Donc, on va demander à la personne de penser à autre chose, de faire autre chose, de ne plus se concentrer sur le tremblement ou sur de voir la main qui tremble, de faire autre chose, que ce soit un calcul dans sa tête, que ce soit de dire une chanson, de parler. On va faire quelque chose qui va venir faire compétition au tremblement.
Aux symptômes.
Oui, aux symptômes. Et puis, tout d'un coup, dans les cas, puis des fois, ça peut paraître être un peu magique, mais ça va complètement diminuer, cesser, arrêter le tremblement.
Instantanément.
Et la personne peut se rendre compte que, hey, finalement, je peux avoir un mouvement qui est normal. Et là, tout, c'est le début de cette prise de conscience-là. Et graduellement, on va bâtir là-dessus. On va bâtir sur ce sentiment de contrôle que la personne peut avoir sur son corps. Donc, en ergothérapie, nous, on le fait par l'activité fonctionnelle qu'on appelle parce que c'est notre médium thérapeutique. Donc, ce que moi, je vais faire avec les patients, ça va être de plus regarder à voir quand ils vont se brosser les dents, quand ils vont manger, d'essayer d'appliquer des stratégies de distraction pour qu'ils puissent se focusser sur ce qu'ils sont en train de faire, la tâche, et non pas sur le mouvement qui tremble et toutes les appréhensions qui viennent avec ce mouvement qui voit pourquoi je tremble, est-ce que c'est une maladie grave, est-ce que je vais perdre mes capacités. Et là, la bobine commence. Et puis là, ça fait boule de neige et puis il y a comme une surattention sur ce tremblement-là.
Et pas en psychothérapie, mais en physiothérapie, comment vous agissez? Ça a presque l'air... Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent puis qui ont ces symptômes-là, qui ont ces troubles-là, qui disent « moi, j'y crois pas là, ce que vous allez me proposer? » Ça ressemble des fois à un peu de la magie, là.
Est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce que ça arrive si souvent que ça? Non, à cause du format de notre clinique. Dans la clinique, justement, comme la première évaluation va se faire au niveau médical, ils vont un peu départager les patients qui sentent qu'ils sont prêts et qui acceptent ce diagnostic-là, qui sont prêts pour la réadaptation à se mettre en action. Puis ceux qui le sont peut-être pas nécessairement, mais ils peuvent avoir des rendez-vous de relance et tout ça. Fait que, quand les patients m'arrivent à moi, c'est ça, habituellement, c'est des patients qui acceptent le diagnostic, qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à se mettre des objectifs fonctionnels, que ce soit retourner au travail. Nous, c'est vraiment c'est ce qu'on cherche là, dans notre clinique. C'est vraiment,
c'est vraiment incapacitant pour eux, alors ils sont motivés à...
Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui va être départagé par l'équipe médicale aussi. Est-ce que le patient est vraiment au moment où il est prêt à faire les efforts? Parce que des fois, on veut, mais on n'est pas en mesure de faire ces efforts-là non plus.
Pourquoi?
Autant physiquement que psychologiquement, des fois, on n'est pas prêt à se mettre de l'avant, donc à se mettre dans l'action, des fois.
À faire des efforts.
C'est ça. Ouais. Fait qu'il faut être capable de dire oui et de faire oui, et non juste dire oui et faire non. Donc,
vous êtes là aussi pour les motiver, j'imagine?
Je pense que je suis assez stimulant, oui.
Oui, je vais juste ajouter que la motivation, c'est une chose, mais aussi la stabilité médicale est importante. Donc, le premier rendez-vous sert aussi à départager les conditions médicales physiques ou les conditions de santé mentale qui pourraient être pas nécessairement en lien avec le trouble neurologique fonctionnel, mais qui, si elles ne sont pas stabilisées, on n'est pas prêt pour une réadaptation. Donc, la première visite sert beaucoup à vérifier que la personne est suffisamment stable, mais comme vous avez donné un bon exemple, si la personne appréhendrait, par exemple, de ne pas réussir une réadaptation ou se sentirait pas assez confiant qu'elle a la capacité, bien, on va explorer aussi, est-ce qu'il y a un trouble panique sous-jacent qui est peut-être secondaire, en fait, aux symptômes qui, encore une fois, peut être très, très souffrant, très invalidant. Donc, on va s'assurer que la condition de santé mentale est stable avant de commencer la réadaptation. Mm-hmm. Ça va être un prérequis. Mais on va aussi s'assurer que toutes les investigations sont terminées parce qu'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un trouble neurologique fonctionnel et une condition de santé physique. Donc, on faut savoir d'abord, hein, est-ce que la santé est assez bonne pour s'engager dans un processus de réadaptation? Alors, c'est notre rôle.
Est-ce qu'on dit un trouble ou des troubles? Est-ce qu'on peut avoir qu'un trouble?
Oui, on peut, des fois, on le met au singulier ou au pluriel, mais le diagnostic, je pense, c'est au singulier, mais c'est effectivement, souvent, je le mets au pluriel parce que c'est très fréquent que les gens vont avoir plusieurs symptômes. Donc, on les englobe tous dans le même trouble neurologique fonctionnel, mais par exemple, avec un symptôme qui peut être soit un tremblement, ça peut être une faiblesse, ça peut être un étourdissement, ça peut être un vertige, bien, il peut y avoir de la fatigue cognitive. C'est un symptôme qu'on entend très souvent. On peut avoir des douleurs qui viennent, qui vont aussi être, dans le fond, amenables à une récupération complète parce que, par définition, le trouble neurologique fonctionnel peut être à 100 % réversible.
Ah, oui.
Étant donné qu'il n'y a pas de dommages aux neurones,
oui.
Bien, les circuits, si on recrute les bons circuits, ils se remettent à fonctionner normalement.
Et il n'y a pas de médication là, qui vient avec ça?
Non, au contraire, la majorité des médicaments vont donner des effets secondaires, puis les effets secondaires vont être, dans le fond, interprétés par le cerveau comme un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc vont alimenter le trouble neurologique fonctionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on cherche à faire, c'est normaliser la sensation. Le cerveau calcule de façon erronée qu'il y a un danger, qu'il y a un symptôme qui est pertinent, donc il continue à le générer. Nous, on veut désengager ce circuit-là. On veut corriger par l'action, par la preuve que le mouvement normal est possible, corriger le circuit prédictif qui fait l'erreur. Donc, c'est pour ça que d'ajouter un médicament, on vient augmenter le potentiel d'effet secondaire qui va être mal interprété à nouveau par le cerveau puis qui va perpétuer le trouble neurologique fonctionnel.
Est-ce que c'est difficile pour un neurologue de diagnostiquer le trouble neurologique fonctionnel ou les troubles neurologiques fonctionnels parce qu'il y a différents symptômes qui peuvent nous amener partout, là?
Oui, c'est pas difficile au sens où ça se diagnostique à l'examen neurologique, puis maintenant on a aussi beaucoup d'examens paracliniques qu'on fait souvent pour valider notre examen. Donc statistiquement, c'est pas plus difficile de faire un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel que n'importe quel autre diagnostic en neurologie comme une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques.
Oui,
donc
oui.
C'est la même chose pour nous.
Je sais pas, j'ai vu des témoignages là sur YouTube et on sent tout ces deux personnes-là, en tout cas, que j'ai vues, M. Ayotte et M. C'est-tu English, qui ont suivi des formations chez vous. Est-ce qu'on dit ça, des formations?
Qui ont fait leur parcours de réadaptation.
Oui, oui.
On pourrait
y aller comme ça. Et ils sont soulagés, ils sont maintenant fonctionnels. Donc, ça donne de l'espoir, j'imagine, à plusieurs personnes là, qui arrivent à la clinique. Je me demandais, est-ce que il y a plusieurs personnes qui sont aux prises avec ces troubles-là?
Oui, c'est un trouble qui est fréquent. On estime, la majorité des études qui ont été faites sur ce sujet-là estiment qu'il y a entre 15 et 30 % des gens qui consultent en neurologie générale qui vont avoir des symptômes neurologiques fonctionnels qui peuvent être en concomitance avec une maladie neurologique, que ce soit de la migraine, de l'épilepsie, ou seul, que ce soit l'unique trouble.
J'imagine qu'on est soulagé d'une certaine façon quand on apprend qu'on a ces troubles-là plutôt que, je sais pas, une maladie dégénérative là, qui va mener à la mort.
Absolument.
La question, c'est répondre.
Oui, puis ben le fait d'avoir la connaissance du diagnostic fait qu'il va avoir une réversibilité parce qu'encore une fois, le cerveau, avec cette nouvelle information-là, va calculer différemment aussi toutes ses prédictions au niveau sensoriel. Et on a entre 15 et 20 % des patients qui vont avoir une résolution complète des symptômes après le diagnostic, donc la fin des investigations. Parce que c'est sûr qu'une personne qui est en investigation, vous, moi, si je suis en attente d'un examen, bien, mon cerveau calcule que je suis peut-être en danger. Pendant toute la durée de l'investigation, souvent, les symptômes neurologiques fonctionnels vont être un petit peu plus intenses. Mais après le diagnostic, effectivement, il peut avoir même non seulement un soulagement psychologique, mais une correction et une amélioration des symptômes.
Est-ce que vous travaillez en collaboration étroite, vous, Mme Bélanger et M. Lévesque?
Oui,
je vous appelle par vos prénoms, noms de famille.
Oui, en fait.
Pierre-Luc et Delphine.
On se parle quotidiennement. Dans le format que nous, on a établi à la clinique, on vient un à la suite de l'autre dans le parcours du patient. Donc, on commence avec la physiothérapie, puis ensuite, on va compléter avec Delphine en ergo. Mais il n'y a pas une journée, je crois, où on ne se parle pas des patients, que soit je suis en traitement avec ce patient-là, pour lui parler du patient qu'elle va bientôt commencer ou à l'inverse, je prends des nouvelles de ses patients. On a des rencontres multidisciplinaires à tous les mercredis où on parle de tous les patients qui sont en cours de traitement là, actuellement. Donc, on est sans cesse. Puis c'est ce qui fait la force de notre équipe. C'est pour ça qu'on voulait se déplacer puis venir en équipe. C'est ce qu'on essaie de faire aussi parce que c'est quelque chose qui est primordial pour ce type de clientèle-là. d'avoir un discours cohérent, que tous les membres de l'équipe disent la même chose, parce qu'il s'agit d'avoir une personne qui diverge, qui a une opinion divergente par rapport peut-être au diagnostic, qui va mettre une incertitude dans la tête du patient. Puis là, on relance un peu l'hypervigilance, le cerveau prédictif et tout ça qui peut... Fait que l'importance de ce discours-là est super importante. Puis c'est pour ça qu'on travaille, on dit transdisciplinaire, là. Hein? Delphine fait un peu de physio, je fais un peu d'ergo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est primordial.
Est-ce qu'il y en a qui ont des petits troubles ou le trouble est quand même assez minime? Là. Moi, je pense à moi quand je mange une soupe, là, la main me tremble. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher ça? Essayer d'attraper une balle?
Ça dépend si votre tremblement est un tremblement essentiel, oui, neurologique. Oui. D'abord, voir un neurologue pour avoir le bon diagnostic. Et après, on peut se prononcer.
Mais... Ça, c'est pas bon, hein, parce que j'irai pas sur Internet pour essayer de trouver l'information.
Effectivement, ouais. L'Internet, le problème, c'est que va avoir une multitude d'informations qui peuvent aller dans tous les sens et va, dans le fond, faire en sorte au niveau du cerveau, encore là, qui est toujours en train d'essayer de calculer la meilleure perception qu'il doit générer. Ça va venir confondre le cerveau d'aller chercher l'information qui est finalement qui est pas dirigée là, par un médecin ou qui est pas personnalisée à, à l'individu. Donc, pour une personne, essayer d'aller chercher son propre diagnostic sur l'Internet, en général, ça va augmenter les symptômes d'un trouble neurologique fonctionnel ou du moins ne pas les améliorer. Et puis, ça peut soit retarder une consultation qui est indiquée ou quelqu'un qui se convaincrait « Ah, j'ai un trouble neurologique fonctionnel, je vais m'en sortir moi-même, mais qui a une vraie maladie. » Donc, nous, on met en garde, c'est sûr, ce phénomène-là d'essayer d'aller chercher l'information parce que comme elle n'est pas ciblée à l'individu, elle est très générale, bien, ça ajoute une information de plus qui vient rendre encore plus difficile le calcul du cerveau prédictif et donc qui peut nuire plus qu'aider.
Mais chose certaine, on a un pouvoir sur notre cerveau.
Absolument.
Ouais.
Puis je peux me permettre, un des témoignages que vous avez mentionné, tu sais, qu'il y a sur le site de la clinique, tu sais, c'est un homme très, très intelligent, très, très scientifique, très érudit, puis qu'il l'a verbalisé même lui dans le témoignage que plus il lisait sur le premier diagnostic neurologique qui s'est fait donner, plus il développait des symptômes. Puis c'était pas pour mal faire, mais son cerveau prédictif, tu sais, tombait dans le fond en boucle. Puis c'en était un patient que quand on a mis en place les techniques de distraction, les techniques de... pour un peu aller démontrer les capacités réelles que son cerveau a, bien, le niveau de confiance envers le diagnostic a augmenté, l'hypervigilance, les craintes sont diminuées aussi, puis on a vraiment pu se lancer dans le processus de réadaptation à ce moment-là. Donc, des fois, de trop chercher par nous-mêmes peut amener un peu ce genre d'exacerbation-là des symptômes.
Alors, si on a l'impression, bon, si on a des problèmes, mais qu'on n'a pas de diagnostic, on passe d'abord par notre médecin, par un neurologue, puis ensuite, on arrive à votre clinique. Comment on peut arriver à votre clinique?
En général, les gens nous sont référés par un neurologue, pas nécessairement du CHUM, donc un neurologue externe. Il y a quelques-uns de nos patients vont être référés pour, par exemple, des ORL, le symptôme principal est un vertige. On en a quelques-uns qui vont nous arriver aussi de d'autres spécialités médicales comme la médecine interne, la physiatrie et occasionnellement de la psychiatrie aussi, parce que faut pas se le cacher, là, anciennement, le trouble neurologique fonctionnel était considéré comme un trouble de santé mentale.
Ouais.
Alors que de notre côté, on ne considère plus que c'est le cas.
Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Je suis certaine que vous avez éclairé plusieurs de nos auditeurs et auditrices. Je parlais avec Arline Aude Bérubé, neurologue et responsable du programme TNF pour les troubles neurologiques fonctionnels, Pierre-Luc Lévesque, physiothérapeute et fondateur de la clinique, et Delphine Bélanger, ergothérapeute et psychothérapeute. Merci beaucoup d'être passé à Canalem.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.